France Musique. France Musique, les grands entretiens, Christophe Dillis.
Je m'appelle Jean Tubéry, je suis né à Toulouse un 3 avril 1964. Je suis ici afin de partager notre passion commune, la musique.
Jean Tubéry, comme on travaille, comme vous le faites, avec un répertoire ancien, voire très ancien, il y a une part de spéculation, peut-être même de frustration, mais surtout de création pour combler les lacunes et rendre de nouveau audibles ces pages anciennes. Travailler avec des compositeurs vivants, ça doit finalement être un peu plus simple, non ?
Ça, c'est une sorte de fantasme absolu du musicien baroque de pouvoir côtoyer le compositeur vivant. Pourquoi ? Parce que le compositeur vivant, il va vous expliquer justement quelle est la relation entre la partition écrite et ce que lui en attend. Et ce dialogue-là est toujours extrêmement enrichissant parce que le compositeur est aussi en demande de la part du musicien de propositions à laquelle il n'aurait pas songé. Et puis il est toujours ravi, à vrai dire, de découvrir son œuvre en chair et en os, c'est-à-dire en sonorité, grâce au musicien sans lequel son œuvre n'existerait pas, ou en tout cas ne vivrait pas. Donc chaque fois qu'on a eu la chance, ou que j'ai eu la chance en tant que cornettiste de créer des partition, eh bien, ce fut chaque fois une révélation, et puis une manière aussi d'aborder mon instrument différemment, et parfois de progresser sur mon instrument, puisque ces compositeurs nous demandent bel et bien d'aller au-delà de ce que l'on pensait être les limites de l'instrument. Donc j'ai eu la chance de côtoyer et de créer des œuvres de la part d'un Thierry Machuel, d'un Thierry Esquèche, d'un André Bon, etc.
Jean Tubéry, on va faire un exercice un peu particulier. On va ouvrir les portes de votre placard à disques. Si je regarde un petit peu dans votre collection, j'y vois du Debussy, j'y vois du Purcell, j'y vois un petit peu de tout, j'y vois de l'Inde du Sud.
Oui, donc on a parlé de la musique traditionnelle. Je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est pour nous un petit peu une mine d'or, quoi, pour nous autres qui pratiquons la musique ancienne. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, on est face à ces musiciens qui parlent leur langue au sens propre et figuré du terme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout confrontés à la moindre incompréhension de partition, à la moindre incompréhension du langage ou à la moindre difficulté par rapport à un instrument qu'ils maîtrisent à merveille. Donc c'est un exemple assez fascinant, quand bien même ils parlent une toute autre langue que la nôtre. Mais leur aisance sur leur instrument et sur leur langue me semble être une leçon de musique dont on peut profiter en tant que musicien désireux de restituer cette fluidité du langage. Donc là, je parle de l'Inde du Sud par exemple, mais voilà, on aurait pu parler de l'Irlande, on aurait pu parler de la musique des Balkans, on aurait pu parler de toute musique vivante en fait dans laquelle la tradition nous inspire l'évidence du geste du musicien.
Et comment vous l'avez découvert ça ?
Alors ça c'est grâce à Radio France, à la collection Okora qui naît dans ces années 80, une collection extraordinaire qui s'est enrichie depuis. Mais donc j'ai eu la chance de participé, voilà, à la naissance de cette collection Okora. Donc chaque LP, comme on disait, 33 tours, comme on disait plutôt à l'époque, était une véritable révélation. C'est comme ça que j'ai découvert les musiques d'Inde, du Maroc, mais aussi de Corse, de où que ce soit. C'est une collection qui compte et qui a une place importante dans mon cœur de musicien, je dirais.
Duberry, il y a des disques évidemment qui ont compté pour vous en tant qu'auditeur, mais aussi en tant qu'étudiant, notamment un disque de musique médiévale par l'ensemble Malapunika.
Ah, ça, Malapunika, c'est toute une histoire, parce que c'est l'histoire de Pedro Memelsdorf aussi. Pedro Memelsdorf, avec qui nous avons usé nos culottes sur les mêmes bandes du Conservatoire d'Amsterdam dans les années 80. Donc, Pedro était étudiant de flûte à bec en même temps que moi, donc exactement 1983-84, bientôt 40 ans de cela. Et Pedro redécouvrait la musique de l'Ars Subtilior, de ces compositeurs dont personne n'avait jamais entendu parler, les Sanlèche, les Caserta. Donc c'est avec Pedro que nous avons relu pour la première fois, en ce qui le concernait et en ce qui nous concernait, ces musiques avec un trio de flûte à bec que nous avions monté en l'occurrence. Et je me souviens de ces soirées interminables à lire ces musiques avec les éditions musicologiques de l'époque qui venaient de paraître. Alors on avait bel et bien l'impression de redécouvrir le monde, parce que c'était en plus la musique du 14e siècle. Alors imaginez-vous cette musique si loin qui nous parlait tellement et qui avait tant de secrets à dévoiler, parce que la musique de l'Ars Subtilior est très particulière, elle est d'une complexité rythmique extraordinaire. Donc au niveau de la lecture, c'est beaucoup de travail pour arriver à comprendre ce langage. Mais quand on y arrive, on est face à une musique qui déploie son génie et son ingéniosité en matière rythmique, en matière de contrepoint. Voilà, donc c'était une découverte extrêmement exaltante en tant que jeune musicien de ces années 80. Et c'est grâce à Pedro Memelsdorf qui s'est avéré par la suite comme étant un des grands pionniers de la restitution de l'Ars Subtilior et de l'Ars Nova au disque grâce à sa collection donc Ars Italica.
Vous abordez un répertoire aussi ancien que la musique médiévale ou la musique de la Renaissance. Est-ce qu'il y a à chaque fois une sorte de fulgurance, une sorte de réalisation que, oui, ces musiciens disparus depuis longtemps obligatoirement devaient jouer comme ça?
Alors, je dois avouer que cette question de savoir si est-ce que c'est comme ça que l'on joue à l'époque ou pas n'est plus essentielle, je dirais, dans ma démarche. J'essaie de nos jours davantage de toucher mon auditeur, c'est-à-dire l'auditeur vivant, le musicien vivant dont je fais partie, plutôt que de me poser la question comment est-ce que cela a été joué à l'époque. Je me la suis tellement posée en tant qu'étudiant et en tant que jeune musicien que quelque part elle est sous-jacente, mais elle n'est plus au cœur de mes préoccupations. J'ai envie de faire en sorte que cette musique nous touche en tant qu'être vivant de nos jours, avec une culture qui n'est pas du tout celle des musiciens de la Renaissance ni de la période baroque. Et pourtant la musique est un langage universel qui est censé nous toucher tout un chacun, universel et intemporel. Donc on est un petit peu entre ces deux aspects pratiquement paradoxaux, à savoir que on se doit de toucher son prochain, donc son auditeur vivant de nos jours, mais il faut aussi restituer cette musique dans ce qu'elle a de, non pas de présence de musée, mais au contraire d'un témoignage, d'une pratique vivante de l'époque. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut jongler en permanence en tant que musicien pour faire en sorte que la musique reprenne le pas et devienne bel et bien vivante de nouveau de nos jours au XXIe siècle.
L'histoire de Pachet.
on ne se doute pas en fait que Jean-Sébastien Bach utilise le cornet à bouquin.
C'est vrai, c'est un instrument qui ne fait déjà plus partie des instruments virtuoses de l'époque. Le cornet a été remplacé par plusieurs instruments, en fait. On se rend compte qu'il a fallu que le violon, la clarinette, le cor, la trompette, voire la flûte à bec se mettent ensemble pour détrôner cet instrument-là. Donc, chez Jean-Sébastien Bach, il est en fait souvent en doublure des chœurs et des chorales. Mais c'est assez touchant de regarder dans quel contexte il rajoute ce cornet. Et par exemple, il y a cette cantate de Noël que nous avons eu la chance d'enregistrer dans ce volume consacré aux trois cantates de Noël dans lesquelles Bach mentionne le cornet à bouquin. Et à un moment donné, quand le texte nous dit « Was für ein süßer Ton », quelle belle sonorité, eh bien c'est le cornet ici qui va déployer sa sonorité sur une longue note qui dure pendant deux mesures. Donc quelque part, ça nous dit, Jean-Sébastien Bach, quand il pense « quelle belle sonorité », eh bien il fait parler le cornet à bouquin. Donc c'est assez touchant, je dois dire, de retrouver ça de nos jours en tant que cornettiste. Fait un travail justement sur la place du cornet dans le col à parte, comme on dit, c'est-à-dire dans la doublure des chœurs, mais aussi un tout autre travail sur le récitatif. Alors ça, c'était intéressant parce que le récitatif, on a appris avec les Gustav Leonhardt, les Philippe Hervaeg et Nicolas Arnoncourt qu'il ne fallait pas le jouer comme il était écrit. Il fallait le jouer davantage secco, comme on dit, c'est-à-dire ne pas tenir les notes comme elles étaient écrites. Et depuis, on s'est contenté de faire comme faisaient ces maîtres-là, ces pionniers, c'est-à-dire on les a un petit peu copiés de manière servile. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il en est véritablement à la source? Pourquoi font-ils cela? Parce que ces gens là était extrêmement informé. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs raisons pour tenir ou ne pas tenir les sons, mais on pouvait les tenir ou ne pas les tenir selon telle ou telle circonstance acoustique, harmonique, etc. Donc, il se fallait de faire la part des choses. Et c'est peut-être ce que n'avait pas fait la génération qui a suivi les grands pionniers qui étaient les Leonhardt et Arnoncourt. Et donc, ce travail autour des cantates de Bach nous a permis de remettre en question cette interprétation des récitatifs de Bach, ce qui montre qu'il y a toujours de la place pour la recherche et pour l'innovation en matière de musique baroque, me semble-t-il.
Alors ça, ce sont des trouvailles qui, évidemment, changent un peu la face de la musique de Jean-Sébastien Bach ou de toute la musique que vous abordez. Et ça doit vous démanger d'expliquer votre démarche à chaque fois, de vous dire, ah tiens, voilà, on tient la note parce que on a découvert telle ou telle source.
Moi, j'ai le plaisir de systématiquement écrire les livrets de nos CD pour expliquer ma démarche, notre travail commun. Et donc, c'est simplement une pierre que je rajoute à l'édifice. Mais c'est vrai que c'était un grand plaisir de faire cela sur la musique de Bach, parce que la musique de Bach, on pense qu'on la connaît, on l'a comprise, et basta, on va passer à la suite. Non seulement elle nous nourrit tous les jours et pour encore de nombreux siècles, j'espère. Mais en plus, il y a toujours quelque chose à en découvrir. Et c'est en cela que je pense à la citation, par exemple, d'un Gustav Leonhardt qui, dans les années 80, sort sa version des concertos brandebourgeois et qui commence son livret en disant « J'espère que cette version ne sera pas considérée comme définitive. » C'est comme ça qu'il commence son livret. Parce qu'il avait notion, il avait conscience qu'il livrait une version absolument inouïe jusque-là. Et c'est une version qui a influencé toute la génération suivante, mais il a eu la modestie de dire, j'espère que cela n'est pas définitif, il y a encore beaucoup à faire et encore du pain sur la planche.
Ce qui doit, vous, en tant qu'interprète, vous soulager un petit peu, ça veut dire que vous pouvez vous asseoir sur les épaules de ces géants. Si on reprend vos disques coup de cœur ou vos disques qui ont été fondateurs, on y voit du Leonhardt, on y voit le Pygmalion de Rameau notamment.
Oui, quand j'écoute le Pygmalion d'un John Elwes avec Leonhardt, par exemple, je me dis qu'il y a quelque chose d'admirable qui peut le rester et qui peut encore de nos jours inspirer les générations qui tâchent de restituer cette musique-là.
Qui vous vient peut-être un peu plus tard dans votre carrière est précédée par un réel souci de reconstitution. On parlait du cornet chez Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, à nous auditeurs qui peut-être découvrons la Fenice, de certaines de ces redécouvertes ou de certaines évidences de reconstitution qui sont vraiment signées la Fenice, signées Jean Duberry?
Par exemple, le cornet à bouquin a un petit frère qui s'appelle le cornettino ou le quartzink, le petit cornet. Et donc ce petit cornet, c'est un instrument qui était très prisé, notamment en Allemagne, dans la génération qui a précédé Jean-Sébastien Bach. On va dire entre Heinrich Schütz et Johann Sebastian Bach, on a ce petit cornet qui n'existait pas, à vrai dire, dans les années 80-90. En tout cas, je me souviens d'ailleurs, pour la petite anecdote, de ce voyage que nous avons fait avec un collègue cornettiste exactement en 1984 dans la banlieue londonienne, dans laquelle on fabriquait ces instruments en résine. Donc c'était des moules, pour ainsi dire. Donc c'était ni du bois, ni de la corne, ni du cuir, mais bel et bien de la résine. Et donc il y avait au catalogue ce cornettino. On a essayé d'en faire quelques notes. On a bien pu en faire, en effet, quelques notes qui ressemblaient plus ou moins à un son de cornet, mais en aucun cas on aurait pu jouer ces instruments en tant qu'instruments de musique. Donc, il a fallu reconstituer un cornettino, un petit cornet jouable, ce qui nous a permis d'enregistrer cette musique véritablement dédiée à cet instrument, comme par exemple ces sonates de Matthias Weckmann. Alors Matthias Weckmann, pour les gens qui ne le connaissent pas, il faut en savoir que un Gustav Leonhardt, quand on lui posait la question « qu'est-ce qui reste à découvrir de nos jours ?», eh bien, de son vivant, il nous répondait « il reste à découvrir la musique de Matthias Weckmann ». Donc c'est dire à quel point cette musique est un génie incontournable. Et donc c'est grâce à cette reconstitution de cornettino qu'on a pu enregistrer l'intégrale de ses sonates pour cornettino, violon, sacbout, dulciane, qui reste d'ailleurs la seule intégrale disponible sur le marché pour le label Ricerca.
Vous êtes le directeur, Jean Duberry, de l'ensemble La Fenice, que vous avez fondé en 1990. Vous avez des souvenirs de tournée, notamment?
Alors, nous avons eu la chance, avec l'ensemble La Fenice, de partir en tournée au-delà des océans, donc jusqu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon. Et chaque fois, bien sûr, c'est non seulement exaltant en tant que jeune musicien que de découvrir ces pays, ces cultures. Mais au bout du compte, la plus grande richesse, c'est de constater à quel point ces musiques sont touchantes et parlantes pour un public qui n'a parfois aucune éducation musicale, entre guillemets, par rapport à ce langage-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre musique est non seulement universelle, intemporelle, et qu'elle peut toucher tout un chacun, quelle que soit sa culture. Et je pense que c'est la force d'une certaine, une parmi les innombrables musiques baroques, les musiques anciennes, il y a certaines qui sont bel et bien intemporelles. On parlait de la musique de Bach, ce n'est pas la seule. Je pense qu'il y a toutes ces musiques inspirées sans doute des traditions vivantes, des traditions orales, qui quelque part nous parlent à travers toute la planète, quelle qu'était son enfance musicale ou pas, quelle qu'était son éducation artistique ou pas. Et c'est en cela que ce fut voilà, un grand bonheur. Par exemple, de donner, je dirais, notre programme Le Camino de Santiago, la musique sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques. Alors vous imaginez, donc, c'est vraiment la musique pour le pèlerin catholique du XVIIe siècle, en l'occurrence, qui arrive en Chine au XXe siècle. Il est évident que la plupart des gens dans la salle ne savent pas où se trouve Saint-Jacques et n'ont pas grande idée de ce qu'est le pèlerinage dans sa notion de foi catholique. Et pourtant, eh bien, ces gens-là vibrent véritablement, peut-être comme jamais, ce fut le cas lors de ce concert mémorable près de la Cité interdite.
Ainsi s'achève le quatrième épisode de cette série de grands entretiens avec le cornettiste et chef d'orchestre Jean Tuberry, série réalisée par Christine Amado avec Julie Garot à la technique et Romain Lenoir au mixage. L'attaché d'émission était Flora Sternadel. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.